Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes. Dans la série d'interviews consacrée au Salon du Livre de Montauban, qui présente cette année 2025 quelques 60 auteurs de fiction, de non-fiction et de publications pour la jeunesse, nous nous sommes entretenus aujourd'hui avec Anne Lasserre-Vergne, docteur ès lettres, primée deux fois par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Anne Lasserre-Vergne a publié de très nombreux ouvrages, notamment sur les Pyrénées. Dans son dernier ouvrage en date, paru aux éditions Lazare et Capucine, elle confie au lecteur avec beaucoup de poésie et de grâce l'expérience d'un douloureux chemin personnel. Nous l'avons rencontré dans la perspective du Salon du Livre de Montauban, le 27 avril. Bonjour Anne Lasserre-Vergne.
Bonjour Pierre-Jean.
Très heureux de vous avoir au micro cet après-midi de Radio Esprit Occitanie dans l'émission Occitanie, terre d'extase. Alors je vous présente brièvement, bien que vous ayez une notoriété importante dans notre Occitanie. Alors vous êtes docteur en lettres, vous êtes spécialiste de l'image des Pyrénées dans la littérature. Vous avez enseigné...
Du légendaire pyrénéen, car j'ai fait deux thèses.
Ah voilà, d'accord.
Tout en travaillant.
Oui, eh bien, quel courage, quelle énergie et quel savoir aussi. Vous êtes également conférencière, beaucoup conférencière, vous m'avez confié off là, parce qu'en ce moment vous travaillez sur 6 conférences différentes, c'est bien cela ?
Oui, oui. Certaines sur les Pyrénées, oui. D'autres sur la littérature française,
oui.
Et dernière sera sur un capitaine long cours qui a vécu au 19e siècle. Ah. Et celle-ci, je la ferai à la fois à Montauban et à la fois à l'île d'Oléron,
ah, oui,
car
oui. Est
originaire de oui. L'île d'Oléron.
Ah, très bien, on essaiera de vous suivre dans cette démarche aussi. Et puis vous êtes membre titulaire de l'Académie de Montauban. Nous allons peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. Et vous êtes bien sûr aussi membre de la Compagnie des écrivains de Tarn et Garonne. Nous parlerons tout à l'heure ensemble aussi de l'actualité à venir, qui est le Salon du Livre de Montauban, qui aura lieu le 27 avril au complexe Louise, à Montauban. Donc. Mais parlons d'abord, si vous le voulez bien, de vos livres, de vos ouvrages. Cette émission est consacrée, et comme les autres, prochainement aux auteurs et à l'écriture. Et quand on regarde votre bibliographie, on s'aperçoit que vous êtes à la fois éclectique et très prolifique. Vous avez parlé des Pyrénées, mais ce n'est pas le seul sujet qui vous occupe, je crois. Donc, quand je regarde votre bibliographie, je l'ai sous les yeux, la dernière parution en date concerne un ouvrage paru chez Lazare et Capucine en 2024. Il est noté essai. Est-ce un essai ou est-ce une autobiographie? On se le demande. Le titre, « Si je m'endors, tu me réveilleras ». Vous avez d'ailleurs le génie des titres, hein, on verra tout à l'heure parce que les autres titres sont formidables. Celui-ci alors, est-ce un essai, est-ce une autobiographie, Anne?
Alors, ce n'est pas un essai, Pierre-Jean. Il s'agit bien d'un pan de ma vie, donc oui. C'est en partie effectivement autobiographique, oui. puisque je n'ai rien inventé dans ce livre. Oui. Je ne pensais pas au départ du tout le publier. Je l'écrivais pour moi, un petit peu chaque jour, parce que l'écriture, comme la peinture, il y a un peintre, je crois, qui disait « Quand je peins, je suis hors du temps et de moi-même. Oui. » Eh bien, quand j'écris, je suis un peu hors du temps et de moi-même. Et cela m'a beaucoup aidé à vivre cette période de plusieurs mois pendant laquelle j'ai accompagné mon mari qui était en fin de vie.
Voilà, oui, merci. Et alors, d'autres titres qui interpellent, par exemple, « L'âme en vrac ». C'est un beau titre, ça recouvre quoi, Anne ?
Alors, l'âme en vrac recoupe des nouvelles, parce que j'aime bien la nouvelle. La nouvelle permet de saisir des instants de vie, des instants du quotidien auxquels on ne prête pas attention, et pourtant portent en eux une part d'éternité. Voilà. Et alors là, tous les personnages ont un moment ou un autre de leur vie un peu l'âme en vrac, et du coup ils s'interrogent sur l'enfance, sur la liberté, sur le monde idéal, sur le destin. Enfin bref, ils s'interrogent sur la vie en général et sur leur propre vie. Je pense qu'il y a des questions à se poser régulièrement.
Oui. Alors, ça amène deux questions. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'âme en vrac dans ce contexte ? C'est quoi ? C'est être défait psychologiquement ? C'est s'émietter dans le temps ? Qu'est-ce que c'est ?
Voilà, il y a un moment où, je suis partie de toutes ces expressions où on dit avoir l'âme en joie ou au contraire la mort dans l'âme, donc ce titre, l'âme en vrac, m'est venu pour tous ces gens. À un moment de leur vie, bon, par exemple, dans la première nouvelle, Jocelyn veut absolument retrouver sa liberté. Il lui semble que ça lui sera plus facile de vivre peut-être sans sa compagne Mandarine.
Ah, voilà.
Et elle est à peine partie qu'il se pose le problème très angoissant. Mais oui. À la fois de la liberté et de la communication.
Oui, et puis de la solitude peut-être aussi, non ?
La solitude, voilà. Ou par exemple, Antoine, parce que l'éditrice avait dit que ça serait bien si toutes les nouvelles avaient comme titre un prénom. Donc c'est pour ça qu'elles ont toutes un prénom. Et Antoine, lui, il revient pendant des vacances dans sa famille, c'est une grande fratrie. Et du coup, à un moment, il va s'interroger sur ce que peut être une fratrie.
Oui. C'est très intéressant. Et alors, c'est une nouvelle, un recueil de nouvelles plus exactement. Et justement, peut-être vous qui êtes spécialiste des questions littéraires, on peut le dire absolument, qu'est-ce que vous pensez de la situation de la nouvelle dans la littérature en France actuellement ? Parce qu'on note un gros décalage avec d'autres pays, je pense aux pays germaniques et anglophones, où la nouvelle est célébrée largement et est un pan éditorial assez important, alors qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de désaffection, si jamais il y a eu une affection. Mais il y en a eu une, parce qu'au XIXe siècle, je pense à Zola, il y avait quand même... Hein, voilà.
Maupassant aussi.
Maupassant, bien sûr, oui. Et pourquoi ? Quelle serait, si on la cherche ensemble, la raison qui fait que on préfère le roman, souvent, ou alors je ne parle pas des mangas, mais on préfère le roman à la nouvelle. Quelle serait la raison ? Bien sûr, l'ambiance est différente, le but de l'auteur aussi est différent.
Oui. Alors là, moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi la nouvelle est un petit peu rejetée en France, alors qu'elle est prêtée aussi au Canada ou même en Amérique. Oui. Par exemple, j'avais lu les nouvelles de Salinger quand j'avais 20 ans et j'avais été émerveillée par ce que peut dire une nouvelle en quelques pages. Oui. Alors donc, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, effectivement. Moi, j'ai commencé par écrire des nouvelles et on me disait, les éditeurs disaient, oui, c'est bien, c'est intéressant, mais écrivez d'abord un roman.
Oui, c'est ça. Mais alors, est-ce que c'est pas un peu le fait de la profession, des éditeurs en tant que bloc, qui réussissent peut-être, sans le vouloir forcément, à former le lectorat dans un sens plus romanesque que nouvelliste ou la nouvelle?
Effectivement, ils ont une influence à partir du moment où ils publient beaucoup plus de romans que de nouvelles. Et c'est pour ça que je remercie de tout cœur les éditions Lucane qui ont accepté de publier ces deux recueils de nouvelles, L'âme en vrac et Moi, je conduirai les chevaux.
Ah oui, c'est ça. Je l'ai là, ici, à côté de moi. Voilà, en effet. Je me prête à le lire, d'ailleurs. J'ai lu « Si je m'endors, tu me réveilleras », dont nous parlerons tout à l'heure dans l'émission. Et alors, si je regarde votre bibliographie, je vois qu'à certains endroits, effectivement, il y a beaucoup de Pyrénées. Alors, les ouvrages les plus récents... Alors, les ouvrages les plus récents. Alors. Oui, et puis alors, en matière de Pyrénées, Anne, votre bibliographie est assez impressionnante parce qu'il y a de nombreux livres. Quels sont les sujets que vous avez traités? Parce que les Pyrénées, c'est tellement vaste, c'est le cas de le dire.
Alors, j'ai traité des sujets qui ont d'abord été en rapport avec les deux thèses que j'ai soutenues, notamment sujet sur le légendaire pyrénéen, comment des mythes universels sont devenus pyrénéens. Après, finalement, c'est M. Jean-Luc Rebel qui dirigeait les éditions Kern qui m'a proposé d'écrire cette anthologie que vous avez citée, là, 103 écrivains, qui permet de balayer une vision des Pyrénées du XVIe siècle à nos jours. Les Pyrénées instant volées, c'est aussi M. Kérébel qui m'avait demandé d'écrire à partir de photographies faites par Arnaud Béguet. Et je ne me suis décidée à le faire que lorsqu'il m'a dit que j'avais carte blanche.
Ah, très bien. C'est un beau livre, c'est ça?
Oui, voilà, avec de très belles photographies. Et moi, j'écris à partir de ce que m'ont inspiré les photographies. Je ne les décris pas du tout. Ce n'est pas le propos du livre. Et puis après, j'ai écrit aussi sur les Pyrénées deux biographies, puisque je suis l'arrière-petite-nièce du grand pyrénéiste Ludovic Gorier.
Je comprends mieux.
Comme j'ai hérité de ces documents, j'ai évoqué ses travaux sur les glaciers et sur les lacs, puisqu'il a parcouru les Pyrénées pendant 30 ans, de 1900 à 1931, date de sa mort.
Donc, vous avez les Pyrénées dans votre ADN, on peut dire.
En quelque sorte, bien que je ne sois pas une grande grimpeuse, vous préviens.
Ah oui, vous avez tout de même fait des randonnées, des ascensions.
Voilà, des randonnées, mais bon, plutôt de la montagne à vaches.
Ah oui, bon, c'est très beau aussi, on peut sympathiser avec les vaches en cours de route. Et voilà, et quel endroit, quel lieu particulièrement avez-vous visité et dans les Pyrénées? Parce que les Pyrénées, c'est long, c'est grand, c'est...
Oui, alors je connais surtout les Pyrénées centrales, d'une part, parce que j'ai travaillé, mes deux thèses ont porté sur cette région, c'est-à-dire en gros des Aubonnes et des Eaux Chaudes, Bagnères de Chalon. Et donc, la partie des Pyrénées que je connais le mieux, même si bien sûr je connais aussi les Pyrénées orientales, mais c'est vraiment dans les Pyrénées centrales que je me suis promené ou que j'ai marché ou que j'ai un peu ascensionné.
Prenons maintenant votre activité dans les mondes littéraires de la région, du département. Vous êtes membre titulaire de l'Académie de Montauban. Qu'est-ce que ça représente pour le public quand on n'est pas soi-même membre et qu'on connaît simplement l'existence de cette institution ?
Alors, nous sommes 40 normalement, membres titulaires. Mmh. Nous nous réunissons une fois par mois en séance privée. Mmh. Nous échangeons sur divers sujets, où nous préparons l'année à venir, les conférences à venir, mmh. les thèmes que nous allons choisir. Mmh. Et après la conférence privée, conférence est donnée, soit par un des membres de l'Académie, soit par quelqu'un de l'extérieur. Mm-hmm. Et cette conférence est ouverte au public et gratuite. Donc il y a une conférence chaque mois. Et nous pouvons nous intéresser aussi bien à des problèmes de société. Par exemple, l'an dernier, les thèmes des conférences, pendant 4 mois, ont été centrés sur l'eau. Uh-huh. Le thème de l'eau, vu sous différents angles. Et c'est pour cela que j'ai bien regretté de découvrir un peu trop tard votre livre « Philosophons ».
Oui, oui.
Autrement, nous aurions pu faire appel à vous.
Pourquoi pas.
Cette année, ce sera sur la langue française. Uh-huh. Voilà. Et en 2026, certainement sur le thème du voyage. Voilà.
Oui. Et alors, est-ce que ces réunions et ensuite cette conférence donnent lieu à une publication annuelle ?
Oui. Chaque année, il y a une publication des recueils de l'Académie qui regroupe toutes les conférences, effectivement.
Et que l'on trouve en librairie à un moment donné ou...
Oui, en tout cas, on le trouve à la librairie de Montauban. Oui. Sans problème. Mmh. Ensuite, je pense qu'on peut... ils peuvent être en vente à l'entrée d'une conférence, oui. Ou on peut demander à les obtenir. Mmh. Enfin, il y a différents moyens pour les obtenir.
Mmh. Parfait. Et alors, vous êtes aussi membre de la Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne, qui a évidemment un but différent de l'Académie dont nous venons de parler. Qu'est-ce qu'elle fait, cette compagnie ?
Alors, cette compagnie des écrivains dont Pierre-Anne Desvergne est le président, oui. effectivement, est tout à fait différente.
Oui, oui.
Par exemple, nous nous réunissons une fois par mois pour des conférences aussi.
Ah, aussi.
Le mercredi, voilà, il y a des conférences qui sont données, qui sont ouvertes au public.
D'accord.
Des conférences aussi très diverses. Mmh. Et également, une fois par mois, il y a une veillée poétique.
Mmh.
Où nous sommes généralement une vingtaine. Mmh. Et nous lisons des textes, soit empruntés à des auteurs autres...
du patrimoine littéraire, oui.
Voilà, ou écrits par les personnes qui sont présentes dans la salle.
Ah, très bien.
Là, c'est à nous de choisir ce que nous voulons présenter. Et c'est toujours, effectivement, très sympathique de se retrouver.
Certainement, oui.
Voilà.
Oui. Et alors, parlons, si vous voulez bien, Anne, aussi, maintenant, du Salon du Livre de Montauban, qui a lieu le 27 avril, qui va réunir une soixantaine d'auteurs. D'auteurs sur des thèmes d'ailleurs différents. Il y a une grande diversité de sujets et d'approches. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au public qui est invité par là même à se rendre le 27 avril au complexe Louise ?
Alors, d'abord que c'est le 4e salon du livre organisé par la Compagnie des écrivains et surtout par Pierre-Anne Desvergne, et que cette année, donc, il se déroulera au complexe Marie-Louise, une salle moderne, 321 avenue de Paris, et il y a un grand parking, ça je le précise. Ah, oui. Donc juste à la sortie de Montauban en allant vers Cahors.
Oui.
Le salon sera ouvert de 10h à 18h. Mmh. Et il y a effectivement des auteurs tout à fait différents, puisque cette année, par exemple, il y aura Nicolas Moineau,
oui,
qui est un ancien champion du monde d'escalade de difficulté.
Ah oui, extraordinaire.
Il a été champion,
oui,
du monde en 2012, ah, oui, alors qu'il est un déficient visuel, puisqu'il a une maladie génétique. Mmh. Bon, il y a aussi François-Henri Soulier, que je ne présente pas et que je crois que vous allez interviewer.
Oui, tout à fait.
En Occitanie,
Muriel
Magellan aussi, qui est connu, oui, ancienne, qui a été, je crois, réalisatrice et qui écrit également des romans.
Oui.
Donc, il y aura de la bande dessinée, mais il y aura aussi des ouvrages pour adolescents et adultes,
oui, oui,
des romans, des nouvelles. Enfin, je pense que, oui, c'est pas mal de romans policiers aussi.
Oui, une grande diversité, en somme toute.
Oui,
oui.
Une grande, voilà, oui. Et c'est un, je veux dire, c'est un salon qui est à peine lancé en quelque sorte, puisque ça sera sa quatrième édition,
oui, oui,
et qui a déjà connu un beau succès, un grand succès par exemple l'an dernier, et dès sa première année en quelque sorte.
Oui, l'an dernier, vous aviez la présentation d'un film aussi sur Olympe de Gouges, si je me souviens bien, et avec la présence de Madame Gaillet, et ça représente évidemment un moment fort. Y en aurait-il un cette année, que vous sachiez ?
Non, alors le Julie Gaillet signait un de ses...
Oui.
Lors du salon,
oui,
et la présentation du film Olympe de Gouges s'est faite le lendemain, en quelque sorte.
D'accord.
Mais
parfait.
Pas à l'intérieur du salon. Et cette année, non. Il y a les 60 auteurs d'Occitanie,
oui,
sans,
et puis je
sans
pense...
autre forme de... Pardon ?
Oui, non, je pense aussi qu'il y aura donc le temps fort, c'est la présence de Nicolas Moineau, hein, qui est un grimpeur français,
oui,
qui est champion du monde d'escalade, vous venez d'en parler d'ailleurs, Anne. Il est champion du monde d'escalade de difficulté, hein, en 2012,
oui,
parce que justement il est atteint d'une rétinite pigmentaire, mais ça n'empêche qu'il a eu en 2012, il a reçu une médaille d'or, et avant,
oui,
plusieurs médailles, notamment à Gijón en Espagne, à Bercy en France. Et il est auteur, ce qui,
oui,
justifie. On l'oublierait et... presque, et donc il a fait à perte de vue aux éditions,
oui,
Artaud. Voilà, méditons sur le sens de à perte de vue quand il l'utilise comme titre aux éditions Artaud en 2024, avec Emmanuel Dal Secco.
Voilà. Il paraît justement,
oui,
qu'il est aussi plein d'humour, qu'il il est capable de distancier beaucoup par rapport à la perte de sa,
oui,
vue, justement.
Oui. Ouais. C'est formidable quand les gens peuvent transcender,
oui,
leur douleur. Et c'est beaucoup,
oui,
de courage et aussi beaucoup d'humour, en effet, oui.
Et il dit, enfin j'ai lu qu'il apprenait en quelque sorte par cœur les parcours.
Ah,
quand,
bon,
il ne voit,
ah, oui,
pas.
Ce qu'il raconte,
il...
oui, ce qu'il raconte certainement dans son ouvrage, à,
oui,
perte de vue, c'est formidable, ça, oui. Bien, merci beaucoup, Anne Lasserre-Vergne. Vous êtes vous-même présente sur le salon, ça va,
oui,
sans dire. Et avec tous vos livres, tous les livres dont vous avez parlé, là, ou bien une petite sélection, qu'est-ce que...
Oui, je pense que je ne les apporterai pas tous. Il y aura une sélection. Mais je crois qu'on vous y retrouve aussi, Pierre-Jean.
Et c'est vrai, oui, oui, en effet.
Aussi au salon.
Oui, tout à fait. Vous m'avez aimablement invité les uns et les autres et je vous en remercie. Voilà. Merci beaucoup, Anne, pour cette contribution.
C'est moi qui vous remercie, Pierre-Jean. Thank you.
intime tendresse que celle du texte autobiographique « Si je m'endors, tu me réveilleras ». Dès les premières pages, on sait que l'on tient dans ses mains un ouvrage d'exception. Ce grand livre de 107 pages s'adresse à tous les vivants, pas seulement à ceux qui sont sur le point de perdre un être cher. La narratrice, qui n'est autre que l'auteur, se trouve confrontée à l'inexorable, à ce que nulle parole, nulle prière ne saurait conjurer. Étant donné son sujet, un décès annoncé, le récit pourrait tendre vers le pathétique, le poignant. Il n'en est rien. Elle éprouve d'emblée la déchirante différence entre les bien vivants qui vont et viennent et ceux qui n'ont qu'un lit pour maison. Quand elle pénètre dans le centre hospitalier, elle a presque honte d'être gorgée de vie. La compagne du mourant demeure, de la première à la dernière ligne, une prudente observatrice, soucieuse d'interroger à distance raisonnable ce personnage principal aussi invisible que Thésée, qui n'est pas le mourant, mais la mort elle-même, qui s'immisce entre deux êtres, entre elle et lui. À présent, elle le voit remonter vers l'essence des choses. « Tu sembles réclamer cette part d'enfance dont tu as toujours rêvé en vain, » dit-elle. Lorsque la vie a usé définitivement le corps, un retour aux joies lumineuses de l'enfance est-il encore possible ? En face de moi, je ne vois plus qu'un moineau apeuré, note celle qui presque en même temps découvre avec étonnement qu'en chacun de nous, il existe un puissant fond d'amour. Les esprits sont intacts, la pleine santé ferait presque oublier que nous habitons un corps. Et puis, un jour, la maladie survient, dévaste le corps de l'un. Anne Lazer-Vergne en témoigne. Jusque-là, le corps n'avait pas été notre priorité. Nos corps fonctionnaient du mieux qu'ils pouvaient et cela nous paraissait naturel. La souffrance physique altère le moral. Ferait mentir Eschyle si elle ne nous apprenait rien. La narratrice nous assure que, par-delà les épreuves, chacun peut devenir sa propre lumière. Il y eut l'inexorable, vient maintenant l'inéluctable. Ce qui est dit, ce qui ne l'est pas, ne le sera jamais. C'est bien surprenant. Le nombre de questions que nous ne posons jamais, ou pas au bon moment. Il y aurait encore tant de choses maintenant à demander à ceux qui m'ont bercé sur leurs genoux, qui ont accompagné mes premiers pas, et qui ne sont plus si proches et si lointains dans leur présence absente, relève Anne Lazer-Vergne. Cette présence absente, la philosophe Simone Weil l'a formulé ainsi. La présence du mort est imaginaire, mais son absence est bien réelle. Elle est désormais sa manière d'apparaître. D'où la ferme intention de l'auteur. Partout où j'irai, dit-elle, je regarderai pour deux. L'absence sera une compagne. La maladie polarise et forme le centre de tout. Tu es devenu un Vidal, le parfait modèle de l'anatomie souffreteuse. Ce livre est aussi une mise en relief de l'incapacité de tout un chacun face à la mort d'autrui, tel ce voisin qui interroge sur l'âge du mari mourant, comme pour décider si, au gré de quelque transcendance mathématique, il pourrait juger sa fin acceptable. Pas de meilleur titre que ce « Si je m'endors, tu me réveilleras » pour ce livre d'une auteure éveillée au sens spirituel et intellectuel. Son art littéraire aidant, elle approfondit l'expérience du deuil avec une sincérité qui ne recule jamais devant la douleur de l'évocation. Un admirable recueil d'une philosophe de la fin, empreint de joie et parfois même d'humour. Chères auditrices, chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir écoutée. Vous avez pu entendre successivement le menuet de Mozart en ré majeur, interprété par l'ensemble de musique de chambre de Bratislava, et l'andante du concerto pour piano numéro 21 de Mozart, sous la direction de Colin Davis et la soliste Alicia de La Rocha. Nos vifs remerciements à Anne Lasserre-Vergne ainsi qu'à Grégor Nachez pour la réalisation technique de cette émission et comme toujours notre gratitude envers nos deux coprésidents Jacques Lavergne et Jean-Luc Palévaudy qui fournissent les idées et les moyens nécessaires à la vie de la station. Radio Esprit Occitanie. Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes.